Eh bien, bonjour à tous et à tous. Vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM. Eh bien, aujourd'hui, un nouveau volet de l'émission animée par la Fondation Copernic, mode d'emploi, et comme tous les quatrièmes vendredis du mois. Alors aujourd'hui, pour présenter l'émission, un petit peu de changement. Didier et Claude à la technique, puisque nos camarades aujourd'hui sont absents et ils seront pas avec nous. Donc aujourd'hui, l'émission est consacrée au service public et plus particulièrement à la question de la gratuité des services publics. Et effectivement, on voit bien que depuis maintenant un certain nombre d'années, les services publics sont attaqués, sont accusés à peu près de tous les maux, et en particulier de mettre l'économie à genoux, en grévant en particulier les comptes publics. Ça a permis en particulier à Sarkozy, pendant 5 années, d'attaquer très, très, très largement les services publics et de réduire en particulier la santé, le logement, la poste et le transport. On reviendra très largement sur ces questions en début d'émission. Et d'introduire évidemment le service privé, là où les secteurs sont jugés rentables. Aujourd'hui, malheureusement, la situation ne change pas beaucoup. On a de nouveau, on continue à avoir des attaques sur les services publics, et en particulier avec en arrière-fond la réduction du déficit public. Bien, alors à deux jours maintenant des élections européennes, on ne traitera pas le sujet, mais on voit bien que ce sujet est quand même très présent, sera très très présent dans le débat, et on essaiera peut-être éventuellement d'en parler ensemble. Alors aujourd'hui, nous avons Jean-Claude Chaillet. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Tu es un animateur de convergence des collectifs défense des développements des services publics, c'est
absolument,
ça?
Oui,
absolument.
Oui.
Et Patrick Lemoyle, qui est membre de la Fondation Copernic lui-même, et par ailleurs, qui travaille en ce moment même avec d'autres amis sur une note de la Fondation Copernic, exactement sur le sujet donc des services publics et de leur gratuité.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Patrick. Alors, vous pouvez nous appeler, comme tous les vendredis. Vous nous appelez au 01 40 05 06 10 et pour intervenir, pour questionner nos invités. Et vous savez déjà que cette émission, vous pourrez soit la réécouter le mercredi prochain à 7h du matin, soit vous branchez sur le site de la Fondation Copernic, www.fondationcopernic.org, et vous pourrez à ce moment-là tout facilement la podcaster. Voilà, on jingle et c'est parti. On a un petit peu de problème. Voilà, c'est parti. Bien, bon, donc alors de nouveau bonjour Patrick, bonjour Jean-Claude.
Bonjour.
Donc peut-être pour commencer, alors comme je le disais tout de suite, peut-être revenir un petit peu sur les services publics, et puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui en matière d'attaque sur ces services. Quels sont un petit peu les secteurs sur lesquels ces attaques sont les plus fortes, et première question peut-être déjà. Alors peut-être Jean-Claude.
Oui. Je voudrais rappeler tout d'abord que, disons, les services publics, la protection sociale, la sécurité sociale, c'est le cœur de notre modèle social, issu du programme du Conseil national de la Résistance, et même au-delà, on montre la Révolution française et à sa notion d'égalité. Alors effectivement, ils n'ont jamais été vraiment acceptés ni par le patronat, ni par les libéraux. Ils ont fait l'offensive depuis toujours, d'offensive plus ou moins importante. Tu as rappelé tout à l'heure, à juste titre, Sarkozy. On pourrait rappeler également Lionel Jospin, qui a fait une vague de privatisation sans précédent.
C'est vrai.
Donc, je veux dire, ça fait un certain nombre d'années que les services publics sont attaqués de toutes parts. En ce moment, on est quand même en train de franchir une rupture majeure. C'est-à-dire, notamment avec le pacte de responsabilité que Hollande entend faire voter, on se heurte là à une aggravation sans précédent des attaques contre les services publics en général et notamment contre la sécurité sociale. Pour donner 40-45 milliards de plus aux aides aux entreprises, on est en train de supprimer, de couper 50 milliards sur l'ensemble des services publics et de la sécurité sociale. 21 milliards sur la protection sociale, le reste sur l'État et sur les collectivités territoriales. C'est ce qu'on pourrait appeler un Big Bang des services publics si par malheur ce pacte de responsabilité venait à être voté. Donc effectivement...
Alors là, on serait plutôt sur les secteurs de type santé, de type...
On est sur tous les secteurs,
en fait.
On est sur tous les secteurs. J'entendais avant de venir à la radio des généraux se plaindre sur la défense. On en pense à ce qu'on en veut. Mais enfin, ils se plaignaient qu'ils ne voulaient pas de commun budgétaire.
Là, visiblement, il n'y aura pas de souci de ce côté-là.
après, chacun son opinion. Mais c'est pour dire que je réponds à ta question, tous les secteurs. Sur l'éducation nationale, bien sûr, il y en aura. De toute façon, maintenant, avec les lois d'autonomie des universités, on est supposé rechercher des fonds un petit peu partout. Il y en a notamment sur la sécurité sociale. Le budget de la sécurité sociale qui devrait être voté normalement à l'automne prochain. Avec donc une progression seulement de 2,1%, c'est historiquement faible. Et on nous promet que les années suivantes, ça sera encore plus faible. Donc c'est véritablement la casse des hôpitaux, la casse des maternités et tout. Mais les collectivités territoriales, c'est exactement pareil. Dans la mesure où on est en train de réduire drastiquement un budget qui est déjà largement insuffisant, ça aura des répercussions partout. L'État, c'est pareil, des coupes partout, des coupes sur les missions, des coupes dans tous les domaines. À un moment, Balladur et compagnie disaient « il y a un bon million de fonctionnaires en trop ». Là, on s'oriente véritablement sur quelques centaines de milliers de fonctionnaires qu'on voudrait supprimer et donc les missions pour le public avec. Par exemple, dans la santé, le professeur Valencien, donc c'est vrai qu'il n'a plus à l'heure actuelle de mission particulière, mais il disait on peut supprimer 35 à 40 000 postes. Il suffit par exemple de faire de l'ambulatoire forcé, donc on envoie chez vous, et puis c'est la famille, les voisins, etc. qui se débrouillent. On va faire de la télémédecine, on va faire tout ce qu'on veut. Le but derrière, c'est pas de faciliter le service pour l'usager, c'est de faire des coupes sombres. Et on pourrait prendre tous les exemples sur les services publics. On s'oriente là-dessus. Mais il y a aussi, dans l'offensive majeure, la réforme territoriale, qu'on appelle le Big Bang territorial. Donc, avec, y compris, donc, qui s'annonce, si c'était voté, suppression de la clause de compétence générale, des gigamétropoles parfaitement...
Pour les départements.
Suppression des départements aussi. Métropole, on est en région parisienne, métropole du Grand Paris, une superstructure antidémocratique qui pourrait déroger à la loi, c'est-à-dire que l'égalité républicaine devant la loi est menacée. Donc il y aurait autant de féodalité qu'il y aurait de métropoles en France. Et ces métropoles-là, destinées à la compétitivité mondiale, le Grand Paris, Ville-Monde, etc., en concurrence avec Londres et je ne sais quoi, dans un désert qui serait un désert territorial, notamment dans le reste de la France, mais y compris même à l'intérieur de ces métropoles, une inégalité accrue.
Patrick, peut-être que la première question tout de suite après, évidemment, la question qui vient assez facilement, c'est mais pourquoi tout ça finalement? Alors je parlais tout à l'heure de privatisation. Évidemment, on peut penser que c'est un des moteurs de l'attaque des services publics, mais bon, en même temps, on voit bien qu'il y a des services publics qui sont certainement rentables. On voit bien lesquels, d'autres qui le sont moins. Tout ça, pourquoi?
Ce que je crois, c'est ce qui se passe autour des services publics, c'est la mise en œuvre d'une idéologie libérale absolue. C'est-à-dire que c'est l'idée que toute chose a un prix et que comme toute chose a un prix, bah, il faut payer et que le marché régule naturellement ce qui est utile, pas utile, en fonction de qui peut payer, comment on paye et comment ça fonctionne. Et ça, c'est une idéologie de la concurrence, du libéralisme absolu qui veut retirer d'une sphère qui n'est pas capitaliste, qui n'est pas rentable immédiatement, tout ce qu'il l'est pour être réintégré dans l'échange marchand libéral. Bon, c'est ça qui est en train de se passer sur tous les sujets. C'est-à-dire que quand l'école a été créée en France à la fin du 19e siècle, on a une idée absolument merveilleuse. Hein, c'est l'idée, il est indispensable que chaque individu, quel qu'il soit, ait droit à une éducation gratuite. Évidemment, ça a un coût, mais c'est un choix politique qui sort de la sphère marchande des choses qui y étaient. parce qu'il y avait des écoles, hein. Il y avait des écoles qui étaient payantes, d'autres qui étaient gratuites, enfin bon, passons. Mais, et c'est tout cet enjeu-là qui est en train de faire exploser tout ce qui est construit dans nos sociétés, tout le modèle social construit autour de l'idée, l'État ou des structures para-étatiques, ça c'est une autre discussion, l'État ou des structures para-étatiques assurent un service pour tous les individus, quel que soit leur revenu. Et ça, c'est un progrès évidemment considérable et qui retire de la sphère marchande des sommes colossales. La privatisation de la santé, c'est un enjeu pour les capitalistes considérable.
Ma question était un petit peu différente quand même. C'était la suivante, c'est-à-dire traditionnellement, le système capitaliste, en tous les cas, disons les entrepreneurs, les entreprises, ont besoin que certains types, certains secteurs, je dirais, soient pas forcément privés, au sens où, comme dirait le bon adage, socialisation des pertes et voilà, privatisation des profits. Mais c'est un peu la même idée. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs sur lesquels les entreprises, le privé n'a pas forcément très envie de se mettre parce qu'il n'est pas forcément rentable, et d'autres qui le sont beaucoup plus. Alors on voit bien la santé, ça la question qui est derrière finalement que je vous pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque de dualisme, c'est-à-dire que certains pans du service public pourraient être privatisés et d'autres seraient laissés au public. Dans un état dégradé. Est-ce que c'est pas quelque chose comme ça qui se profile, ou je sais pas. Enfin, je vous pose la question.
Si, tout à fait. Par exemple, si on prend l'hôpital, on a tendance à laisser à l'hôpital tout ce qui n'est pas rentable, avec notamment la tarification à l'activité et autres, laisser à l'hôpital public tout ce qui n'est pas rentable et transmettre parmi les moyens au privé tout ce qui est rentabilisable. Mais en plus, il y a plusieurs notions pernicieuses qui ont fait le jour ces temps-ci. Par exemple, on parle tous en ce moment de services publics. Mais dans les lois qui menacent d'être votées prochainement, on ne parle même plus de services publics, on parle de services au public, de maisons de services au public. Et là, c'est la notion même de service public qui disparaît. Donc, on est véritablement face à cette offensive.
Patrick ?
Oui, alors, ce que je crois, c'est que y compris sur les choses pas rentables, il faut diminuer la dette de l'État. Et donc, y compris sur les services publics dans lesquels la rentabilité capitaliste n'est pas évidente, il faut diminuer le coût qu'ils représentent.
Hein. Pour la nation, là, pour l'État.
Pour l'État, etc. Et donc, il y a les deux phénomènes qui se cumulent en réalité et qui vont tous dans le même sens. Qu'est la destruction des services publics, leur désagrégation. Alors ça se passe jamais brutalement, parce que les processus sur la sécurité sociale, hein, dont tu parles, ils sont entamés depuis 30 ans maintenant.
Bien sûr.
Bon, et à chaque fois c'est un processus qui désagrège les systèmes, qui fait que les hôpitaux fonctionnent moins bien, et que du coup on se dit il faut aller dans une clinique parce que l'hôpital fonctionne moins bien, enfin etc. quoi. Et là il y a vraiment quelque chose en profondeur de déstabilisation du système tel qu'il est, du système social, de l'équilibre social tel qu'il a établi, il est établi depuis, comme tu le disais, 60 ans maintenant.
L'autre notion, c'est la notion de socle qu'on voit apparaître un petit peu partout, qui prend plus de vigueur. C'est-à-dire, comme on dit, pour les plus démunis, ils auraient droit à un socle, c'est-à-dire de sous-droit. Et tous ceux qui peuvent payer, à
c'est un peu le sens de
payer.
Ma question, c'est ça. On a effectivement, on peut aller vers une logique, la qualité pour les uns et le reste pour les autres.
Le minimum des minimums, parce qu'on ne peut pas forcément laisser les gens crever.
Est-ce qu'on a déjà des exemples un petit peu Alors, effectivement, en France,
les États-Unis, la Grèce.
La Grèce,
il faut voir la situation de l'ensemble des services publics, mais notamment dans la santé en Grèce. Il y a 30 ou 40% maintenant de la population qui n'a plus aucune couverture sociale. Et le degré d'inhumanité en Grèce, à partir simplement d'un exemple, c'est que, lorsqu'une femme va accoucher, ça coûte 600 euros. Une césarienne, c'est 1200 euros. Avec le chômage et tout, une femme qui va accoucher qui n'a pas ces 600 euros, on lui dit, débrouillez-vous, allez chercher l'argent, nous on garde le bébé dans l'intervalle.
C'est ce qu'on a entendu ces derniers jours.
À quel degré d'inhumanité on en est.
On arrive, absolument.
D'où les dispensaires bénévoles, etc. Et le bénévolat, d'ailleurs, est en train de gagner. Parce que le centre de la loi Bachelot, c'est de supprimer des personnels qualifiés et de dire les bénévoles, la famille, les voisins qui en veulent, les bénévoles feront le reste du boulot. Donc on est véritablement une destruction généralisée par rapport à tout ce qui est la notion de service public. Et quand on dit notion de service public à la convergence, on insiste beaucoup là-dessus. Il y a la défense, bien sûr, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a le développement, il y a la qualité. Un service public, ça doit être à la pointe, ça doit être de haute qualité.
C'est peut-être, effectivement, peut-être là, après avoir dressé un tableau effectivement assez sombre hein, de ces attaques, il y a justement des choses qui se passent alors en réaction à la convergence. Alors, qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à maintenant et quels sont un petit peu les axes sur lesquels vous battez?
Bon, je veux dire, on s'est battu sur beaucoup de choses. Je vais prendre vraiment des exemples.
Ça, c'est né quand déjà la convergence alors?
En 1985.
En 1985, et c'est parti de quoi?
On s'est parti de fermeture de services publics à Guéret, une manifestation.
C'est ça,
hein,
c'était la fameuse affaire Guéret, qui c'est une région la particulièrement...
La
fameuse boule de neige, on s'en rappelle, voilà. C'est parti de là. Hein.
Donc, si je prends par exemple quelques exemples, on s'est battu contre la privatisation de la Poste. Alors avec d'autres, hein, bien sûr, on se bat en général en collectif avec toutes les organisations et les syndicats et les partis politiques et tout le monde. Donc, on s'est battu là-dessus, qui a mené donc à la votation citoyenne. Votation citoyenne, alors que le personnel était très difficile à mobiliser pour des raisons diverses. Bon, il y a quand même eu 2300 pétitions à 99,9% contre la privatisation. Le changement de statut a quand même eu lieu. Cela dit, pour l'instant, peut-être pour des raisons qu'on pourrait analyser, mais enfin, pour l'instant, il n'y a encore pas de capitaux privés. Donc le changement de statut a eu lieu là-dessus, effectivement, c'est un échec.
À la Poste.
À la Poste. Donc c'est un des combats qu'on a menés. J'ai mené un combat aussi, avec
l'ensemble des associations,
contre la privatisation d'EDF-GDF. Et ce qu'on disait justement à l'époque, c'est que la privatisation, elle n'a pas eu lieu qu'en France, elle avait eu lieu en Allemagne avant, elle avait eu lieu dans beaucoup de pays avant, que partout notamment où il y avait eu cette privatisation, les tarifs, ils avaient augmenté de 30, 40, 50%. Donc c'est un combat qu'on a mené, comme on a bien vu, on n'a pas gagné. On a mené le combat avec d'autres, avec la coordination des hôpitaux et maternités, avec notre santé en danger, aussi avec beaucoup, beaucoup de monde, avec les syndicats bien sûr. On a mené le combat contre la loi Bachelot. Donc, on a mené des combats un petit peu partout. On mène aussi des combats plus locaux. Par exemple, moi, je suis du Val-de-Marne. Je fais partie du collectif de défense de l'hôpital Mondor.
Henri Mondor, oui.
Donc, on s'est battu contre la fermeture de la chirurgie cardiaque qui en préparait d'autres. On a réussi à mobiliser. On a eu une centaine de milliers de pétitions signées. Donc, quand on dit les citoyens sont indifférents, etc., pas du tout. Quand on a la possibilité de les appeler, ils répondent. Centaines de milliers de pétitions signées, et on a gagné. Donc, je veux dire...
De ce point de vue, il y a des succès.
Bien sûr, il y a des succès. Je veux dire, en ce moment, il y a des luttes un peu partout. On n'en parle pas forcément à la télé sur les hôpitaux, sur les services publics, sur le rail, les fermetures de gares, etc. Il y a des luttes un petit peu partout. Il y a des succès. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que il n'y a pas toujours des succès. J'ai donné des exemples où on n'a pas eu de succès. Quand on a des succès, ils peuvent former être remis en cause. J'ai cité l'exemple de Mondor. Rien ne dit que l'offensive ne va pas revenir. Donc, faut pas se reposer sur ses lauriers. D'ailleurs, le collectif continue, malgré bien qu'il y ait eu une victoire là-dessus, continue à être très vigilant. Et lorsqu'il y a des échecs ou des défaites, elle n'est pas forcément définitive non plus. On peut reconquérir ce qui a été perdu. Donc, défense et reconquête.
Je parlais tout à l'heure de on allait bientôt être amené à se prononcer sur quelle Europe on veut. Peut-être Patrick, tu peux nous dire quelques mots là-dessus. Je présume que cette affaire-là, elle est pas franco-française. On est dans un cadre qui est évidemment largement conditionné par à la fois les textes européens, la volonté de manière, tu parlais de néolibéralisme tout à l'heure, hein, de c'est quelque chose qui se construit plus globalement que simplement sur le territoire français.
Ah oui, là c'est tout à fait clair qu'au niveau européen, Il y a le principe de la concurrence libre et non faussée est contradictoire avec l'existence de services publics efficaces. Hein, bon, et la négociation du traité TAFTA est une arme de guerre contre tout ça.
Alors,
aussi.
Voilà, absolument.
Parce
tout
que
à fait.
Le traité TAFTA, qui est un traité de libre-échange qui est en train d'être négocié de manière secrète entre l'Europe et les États-Unis, c'est un traité dans lequel n'importe quelle entreprise peut attaquer un État si la réglementation ou le mode de fonctionnement de cet État ne lui permet pas de faire les bénéfices qu'il escomptait faire. Bon. Et donc les services publics peuvent effectivement être directement impactés par toute cette politique européenne. Ça, c'est tout à fait évident.
Bien, ben, on va peut-être là penser à une petite pause. Et alors, on nous propose aujourd'hui, pour commencer, La Factrice de Philippe Val.
La factrice a des soucis, elle gagne un peu moins qu'avant. Les PTT, c'est joli sous la pluie, dans la capuche du caban. La petite flamme des yeux gris brille courageusement.
Eh bien, on va quitter donc La Factrice de Philippe Val pour retrouver nos invités, Jean-Claude Chaillet, animateur de Convergence des collectifs de défense et développement des services publics, et Patrick Lemoyle, qui est membre de la Fondation Copernic et qui travaille aujourd'hui sur une note. Hein, vous savez que la Fondation Copernic se spécialise dans la production de documents et de notes, et qui aujourd'hui cette note va traiter du sujet de la gratuité, qui est notre sujet d'aujourd'hui, gratuité des services publics. Alors, dans cette première partie d'émission, on a un petit peu revu ensemble les attaques qui sont portées sur le service public. On a terminé cette première partie en évoquant évidemment le rôle de la Commission européenne et de l'Europe dans ce processus de destruction des services publics, avec en particulier le projet TAFTA. Je crois que Jean-Claude voulait rajouter quelques mots avant de passer sur un petit peu le cœur de notre émission, qui est la gratuité. Est-ce que finalement cette gratuité des services publics c'est une utopie, ou est-ce que c'est une réalité qui d'ores et déjà se construit dans certains endroits et sur certains secteurs? Jean-Claude.
Oui, ce que je voulais simplement ajouter, c'est que la notion de service public telle qu'on la connaît, elle n'existe pas dans les traités européens. Y compris dans le traité de Rome, le terme service public n'existe pas. Donc on est dans ce qu'on appelle les services d'intérêt économique généraux.
Services d'intérêt généraux, absolument.
Et dans lesquels le service public tel qu'on connaît en France, tel que nos auditeurs le connaissent depuis toujours, cette notion-là n'existe pas. Au contraire, il est dérogatoire au marché. Et quand on est dans l'achèvement du marché intérieur, l'exemple du TAFTA ou de l'accord sur le commerce et les services qui est en cours de négociation en parallèle, c'est l'éradication de tout au nom de la marchandisation. Il y a des notions aussi qui n'existent pas. Si je prends par exemple un livre blanc santé, nous en France, on est attaché à l'égalité. Alors, elle est mal réalisée et tout, enfin on est attaché à l'égalité. Dans le livre blanc santé...
En matière d'accès à la santé.
En matière au service public en général.
Au service public en général.
Au service public en général. Si je prends le livre blanc santé de l'Union européenne, la notion d'égalité n'existe pas. Elle est remplacée par une notion d'équité qui n'a rien à voir. Et d'ailleurs, en France aussi, la notion d'équité gagne. On parle beaucoup plus d'équité que d'égalité.
Je crois qu'on remplace égalité par équité. C'est mauvais.
Je crois que tu as effectivement tout à fait raison. Les termes sont très forts en contenu. On voit bien que les termes ne sont pas neutres. Absolument, tout à fait. Ces termes d'équité et l'absence de notion de service public est tout à fait forte. Alors, Patrick, peut-être là, je me retourne un peu plus vers toi pour cette idée hein, qui est un peu celle de ce débat d'aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est assez paradoxale, cette idée, parce qu'on vient de dire aujourd'hui que tout de suite là que les services publics étaient attaqués. Une des manières, d'ailleurs, qu'on n'a pas évoquées, mais dont on va pouvoir parler maintenant, c'est qu'une des manières d'attaquer les services publics, c'est bien évidemment, ça peut être de rendre les services moins performants. D'en augmenter les prix. J'ai un exemple qui me vient en tête là, comme ça simplement, et qui vient de l'extérieur, mais en Italie, les services publics sont quasiment inexistants, Et lorsqu'on interroge les populations sur est-ce que vous êtes prêt à défendre le service public, les réponses souvent sont non, parce que les services publics sont dans un tel état de délabrement qu'évidemment aujourd'hui c'est difficile dans ces pays de défendre le service public. Alors première question, donc à un moment où les services publics malheureusement perdent en qualité parce que bon, on rentabilise les secteurs les plus profitables et qu'on augmente les prix. Alors cette idée de gratuité là, dont on va discuter maintenant, elle paraît un peu paradoxale, non?
Mais justement, il me semble que on va l'aborder par plusieurs biais, mais il me semble que le biais de revitaliser la bataille pour les services publics au travers de sa fonction qu'est la gratuité pour tous et la liberté et l'égalité pour tous est un
que tu évoquais au départ avec l'éducation.
Et quelque chose de positif, c'est-à-dire c'est une manière positive de dire nous ce qu'on pense c'est qu'il y a un certain nombre de besoins fondamentaux qui sont la santé, l'éducation. On peut discuter d'autres besoins fondamentaux, hein, on va échanger dessus, mais ces besoins doivent être donner à tous les habitants, à toutes les personnes et vivant ici, doivent avoir ça. Bon. Et gratuitement, parce que c'est une nécessité vitale, comme respirer, comme... Bon. Et de ce point de vue-là, ça me semble intéressant d'aborder l'aspect, la défense du service public sous l'angle de la gratuité, parce qu'on donne l'objectif du service, et pas seulement la défense de services qui parfois... On le sait, et sont, comme tu le disais, défaillants, fonctionnent mal, etc. Et on est dans une position défensive. Et de poser la question en termes de gratuité me semble une manière positive et conquérante.
En tous les cas, renverser la démarche.
Voilà, c'est
en
ça.
En tous les cas, renverser la démarche.
C'est ça.
Montrer, donc, ce que tu veux dire, si je te comprends bien, c'est que finalement, c'est un peu revenir aux origines du service public.
Absolument. Alors, il y a des théories libérales aux États-Unis qui explique que l'idée même de gratuité est une idée contre nature, qu'il faut combattre, et toute société, elle cherche à empêcher ce qui est contradictoire avec son mode de fonctionnement. Et dans le capitalisme, la gratuité, c'est contradictoire avec faire du profit. Donc, il faut combattre cette idée de gratuité. Et nous, je pense qu'on a intérêt à expliquer que le seul moyen que l'égalité existe, c'est la gratuité. C'est-à-dire que dès que quelque chose est payant, dès qu'on est obligé de payer, on a ce qu'on a les moyens de payer. Ceux qui ont pas les moyens, ils n'ont pas la même chose que ceux qui ont les capacités financières. Et donc, dès lors qu'on pose la question en termes une santé égalitaire pour tous, ben c'est une santé gratuite pour tous. Une école gratuite pour une école égalitaire, ben c'est une école gratuite. Autrement, il n'y a pas d'égalité. Hein. Et donc, on revient effectivement, comme tu le dis, au fondement de la construction des services publics, de la construction d'un système social qui permet à chacun d'avoir ce qui est nécessaire à la vie. Alors, bien sûr, c'est pas naturel. Il y a dans les débats sur les biens communs, les services publics, etc., il y a des discussions entre ceux qui pensent qu'il y a des biens communs naturels et puis des biens communs qui ne sont pas naturels. Moi, je pense que on a intérêt à dire que la gratuité qu'on veut, c'est une gratuité construite démocratiquement. C'est une gratuité sur ce qu'on pense nécessaire pour la population. Et que ça doit être débattu. Ça fait partie du débat démocratique. Toute société doit dire, je sais pas, moi, par exemple, l'eau potable. Bon, on a des problèmes d'eau potable sur la planète. Bon, est-ce que c'est raisonnable que c'est vital, l'eau? On peut pas vivre sans eau. On voit bien les pays où les gens ont pas d'eau potable, ce que ça veut dire. Bon. Donc, l'eau potable, c'est essentiel. Bien, on peut décider que parce que c'est essentiel pour vivre, les premiers mètres cubes sont gratuits. Que le bon usage de l'eau, l'usage indispensable, il est gratuit. Par contre, avoir de l'eau pour remplir des piscines ou laver trois fois par semaine sa voiture, ça n'a rien d'indispensable. Donc, on peut discuter d'un usage positif ou d'un mésusage, comme dit Paul Ariès, de la gratuité et du service, quoi.
On viendra, je vous poserai tout de suite après, évidemment, la question qui me brûle un peu, c'est celle de la viabilité économique de cette affaire-là, parce qu'évidemment, on est tout de suite tenté de dire, bon, si les choses sont gratuites, il y a forcément quelqu'un qui paye, d'une manière ou d'une autre. Donc, peut-être avant d'en arriver là, Jean-Claude, quelques réactions.
Une des remarques. Bon, effectivement, par exemple, bon, lorsqu'on a vu l'expérience d'Aubagne, bon, on l'a regardé évidemment avec sympathie. Transport gratuit à Aubagne, bon, bah, c'était très sympathique. Malheureusement, ça n'a pas suffi en soi pour que la municipalité soit réélue. Mais c'était une expérience, bon, tout à fait intéressante. Et effectivement, c'est tout à fait du domaine. Mais ça aurait pu être aussi bien la restauration scolaire. Ça aurait pu être un certain nombre de services. Effectivement, Patrick en parlait. Bon, il y a toute une discussion à l'heure actuelle. Il va même y avoir d'ailleurs une journée à l'initiative du Front de gauche sur la santé. Est-ce que pour la sécurité sociale, on n'est pas pour la 100% sécurité sociale? C'est-à-dire mettre fin au scandale des mutuelles, qu'on peut se payer, qu'on peut pas se payer et tout. Donc l'éducation, elle doit être le principe républicain, elle doit être gratuite. Or, elle l'est effectivement de moins en moins. Donc il y a tout ce... Alors après, effectivement, il y a la notion du champ. Il y a la notion, comme tu le disais, du financement.
C'est quand même la question.
Il y a quelques temps, là, bon, vous avez vu l'actualité sur l'Ukraine. Là, on interviewait une vieille femme... Bon, manifestement pro-russe, comme on dit, et qui disait, ah oui, bah quand même, du temps de l'ex-Union soviétique, c'était quand même bien mieux, parce que l'éducation était gratuite, la santé était gratuite, le logement était gratuit, etc. Bon, à l'œil nu, il y avait une question de pouvoir d'achat. On voyait bien qu'elle était dans la pauvreté, que même si à l'époque tout était gratuit en Union soviétique, ça suffisait pas pour en faire un modèle. D'ailleurs, la preuve, il s'est effondré sans que personne descende dans la rue par millions pour la défendre. Mais il y avait quand même un certain nombre d'acquis. Et que pour elle, avoir un logement gratuit, alors que peut-être elle dormait dans la rue, j'en sais rien, c'était quelque chose d'important. Donc je veux dire, il y a un lien et avec le financement, et il y a un lien avec le pouvoir d'achat. Et à l'heure actuelle, effectivement... Donc c'est un petit peu ce que disait Patrick d'une certaine façon. Dans la mesure où il y a maintenant des millions de gens, 8 ou 9 millions de gens sous le seuil de pauvreté, ça rend effectivement l'accès aux services publics, qui doit être possible pour tous, de plus en plus difficile. Si on n'a pas un rond, à la limite des fois on n'a pas un rond pour manger, on fait la manche pour manger. Ça ne veut pas forcément dire que la baguette doit être gratuite, encore que, mais ça veut dire qu'il y a véritablement un problème. Donc il y a un problème de pouvoir d'achat. Alors derrière, bon, il y a effectivement le problème, comment on finance tout ça. Et la notion aussi qui est largement liée, il y a la question aussi de propriété. Est-ce que ce sont des propriétés publiques? Est-ce que ce sont des propriétés privées? Est-ce qu'on finance de la même façon une propriété publique qu'une propriété privée, si on parle de gratuit ou si on parle d'un tarif réglementé d'ailleurs?
Sur ces questions de financement, Patrick?
Alors, nous, on a, enfin, dans le collectif transport gratuit... de l'agglomération rouennaise dans lequel je suis investi, on a regardé ce que ça coûtait.
Voilà, ça c'est intéressant.
Parce que ça c'est une chose concrète. Hein. Voilà. Bon, voilà, l'agglomération de Rouen, prenons celle-là, c'est une agglomération de 400-500 000 habitants, un peu plus, 500-600 000 au sens large. Les transports en commun, ça coûte, disons, entre 200... Le budget d'investissement, c'est de l'ordre de 2 à 400 millions par an, ça dépend de l'importance des investissements de l'année. Et le budget de fonctionnement, c'est 200-250 millions. La billetterie rapporte 21 millions.
C'est-à-dire rien.
C'est-à-dire rien. C'est 5% du budget global.
C'est 5%,
du budget global.
Même pas 5%.
Bon. Donc, et quand on commence à discuter de choses concrètes, on dit, ben voilà, pourquoi on ne ferait pas 5% de plus et on met la gratuité des transports? Alors, pour être honnête, ça coûterait un peu plus de 5% de plus. Parce que dans toutes les villes où le transport a été rendu gratuit, que ce soit au Bagne, en 3 ans, le nombre de personnes qui utilisaient les transports en commun a triplé. Une ville comme la ville de Châteauroux, qui est une ville de droite où le choix idéologique, quand la gratuité des transports a été installée, il a plus que doublé dans le même. Donc, évidemment, l'augmentation du coût, c'est pas seulement la billetterie, c'est un peu plus, pour être honnête.
C'est plus parce que, par ailleurs,
il faut acheter des bus, parce que la gratuité en elle-même, elle résout pas la qualité du service. Mmh. C'est ce que tu disais d'ailleurs sur les pays de l'Est. C'est-à-dire que pour que les gens utilisent les transports en commun, il faut qu'ils puissent être dans des transports avec une fréquence suffisamment grande, sans être tassés les uns sur les autres, aux horaires où ils ont envie pas seulement de travailler, mais aussi d'aller au cinéma, enfin de vivre, quoi, au sens large, quoi. Donc il faut plus de transports en commun avec une meilleure qualité de service.
On peut aussi penser, mais, je te coupe, mais on peut aussi penser que la gratuité des services publics engendre une demande supérieure. Est-ce que c'est le cas?
Sur les transports en commun, c'est clair. Partout où ça a été installé, il y a une vingtaine de villes en France, hein. Et puis il y a des villes dans le reste de l'Europe, dans le monde. Enfin bon, passons. Partout où la gratuité des transports en commun a été instaurée, c'est entre le doublement et le triplement des voyageurs. Et y compris la mairie de droite d'Aubagne maintiendra la gratuité des transports. Ils reviennent pas dessus, hein. Il y avait un débat sur est-ce qu'on construit un tram pour un tram, enfin c'est une autre discussion. Bon, mais ils n'osent pas revenir dessus parce que ça devient quelque chose qui a changé la ville.
C'est un acquis.
Bon. Et alors, la discussion qu'il y a là, sur le coût. Bon, tout à l'heure, quand on va partir, on va utiliser un trottoir. Ce trottoir, personne ne le paye. Pourtant, il y a des gens ça a un coût, ce trottoir. La route a un coût, le feu rouge qui est en bas, il a un coût, enfin tout a un coût. Bon, le parc public dans lequel on va se promener, enfin ainsi de suite, tout ça a un coût. Bon. Le choix, il est, est-ce que ce coût, il est assuré par la collectivité et les impôts et rendu gratuitement à tout le monde pour permettre une égalité et une liberté? Parce que je parlais tout à l'heure des soins, il y a l'égalité, mais sur la question des transports, c'est une question de liberté. Dans n'importe quelle agglomération, les gens qui habitent loin, c'est ceux qui ont le moins de moyens, hein. Ceux qui ont le plus de difficultés pour venir travailler, régler leurs affaires administratives quelconques. Bon, c'est ceux qui habitent loin. Et la façon dont les villes se sont construites fait que pour qu'il y ait un minimum de liberté, ben, il faut que chacun puisse circuler librement, c'est-à-dire sans payer. Alors, Les coûts sont réels. Faut pas dire qu'il n'y a pas de coûts. Mais ce que ça change du point de vue de la vie, c'est-à-dire le rapport entre le coût des transports, de la gratuité des transports, est-ce que ça change en termes de
qualité de vie,
qualité de vie, d'organisation de la ville et tout, c'est sans commune mesure. C'est sans commune mesure.
Alors, peut-être sur cette question, oui.
Je voudrais juste rajouter une idée qui est vraiment fondamentale. Quand il y a eu le débat à la fin du 19e siècle, on met en place l'école laïque. Est-ce qu'on s'est dit combien ça va coûter? Non. On s'est dit c'est important.
C'est important.
On le fait.
Alors il y a une question un peu sous-jacente, hein, que j'avais en tête. J'ai un petit peu regardé les publications là-dessus, enfin les exemples, hein, qui se sont faits, celui d'Aubagne en particulier. Il y a un sujet quand même qui est celui de gratuité totale pour tous ou éventuellement modulation en fonction des revenus. Parce que, bon, évidemment, une autre question qui est au-delà du coût, je dirais, macroéconomique, hein, global, c'est pourquoi rendre gratuit certains biens publics pour des gens qui ont les moyens de les financer. Alors, est-ce que ce débat existe, hein, il existe dans le milieu? Comment est-ce qu'il est réfléchi? Comment est-ce qu'on discute ces questions-là? Comment est-ce que ça a été traité?
Je pense que c'est un vrai débat. Si je prends par exemple, je suis d'Île-de-France, la question des transports en Île-de-France. Donc, on s'est posé la question. Bon, il y a évidemment pas la gratuité, on l'a tous remarqué, c'est même très cher. Alors, il y a plusieurs remarques à faire. La première, d'une part, c'est qu'un service public, ça devrait être le même tarif pour tout le monde. Qui peut être la gratuité, mais enfin, s'il ne l'est pas, devrait être le même pour tout le monde. Or, on a un zonage. Donc, ceux qui ont le moins de moyens, c'est ceux qui payent le plus.
Ceux qui sont plus loin.
Une véritable injustice. Alors, à partir de là, on dit, est-ce qu'il ne faut pas un tarif, au moins le même tarif pour tout le monde?
Même, à la limite, première même si manière de...
Bon, alors là, oui, d'accord, mais lequel? Le tarif moyen? Alors évidemment, ceux qui habitent le cœur de Paris, évidemment, ça râle. Ceux qui habitent loin, ils disent moi, je paierai moins cher. Donc déjà, comment on fait? Donc quel investissement on met? Il y a en plus très peu de monde qui paye le plein tarif. En réalité, lorsqu'on regarde, il n'y a que les retraités qui payent plein tarif. Ceux qui travaillent, l'employeur en paye la moitié. Les étudiants, etc., ils ont des tarifs. Ceux qui ne payent pas d'impôts, ils ont les cartes amnistie, ils ont la gratuité. Donc on s'est posé la question au niveau des retraités d'un certain nombre de syndicats. Est-ce qu'on demande la gratuité? effectivement, c'est sympathique. Quel est le rapport de force? Pas évident. Alors, on a demandé, on a dit, bon, après tout, si on avait déjà, comme les salariés qui ont un moulot, un demi-tarif, ça serait quand même déjà mieux que rien. Donc, on a demandé un demi-tarif. Conseil régional, ah bah oui, très bien, merci de nous avoir posé la question. Oui, tout à fait. Enfin, ça fait entre 250 et 300 millions. Les budgets sont contraints, donc on les a pas. Donc, on est en train de se battre, même pour un demi-tarif, sans même parler de gratuité. Donc, là, il y a véritablement un problème.
Mais problème Patrick, je sais que sur la note, vous discutez cette question.
Tout Pardon à fait. Tu disais pour tous.
Oui, bon, c'est ça.
Alors, tu disais pour tous.
Oui, c'est ça. Ma question, c'est pour tous. C'est ça.
Personnellement, pour moi, le service public, c'est l'égalité. Donc, on paye tous le même tarif. Par contre, au niveau du financement, la fiscalité, elle doit être proportionnelle. Donc, on parle de réforme de la fiscalité, etc. Donc, au niveau du financement. Mais je pense que ça, je comprends bien ceux qui disent celui qui gagne plus, il devrait payer plus. Ça part d'un sentiment égalitaire. Donc, là-dessus, je comprends, je partage la préoccupation. Cela dit, si on va jusqu'au bout, je vais acheter ma baguette chez le boulanger, je vais ramener ma feuille de paille parce qu'il n'y a pas de raison que je la paye le même tarif que le SDF qui a fait la manche pour se l'acheter.
Le beefsteak
et machin. Donc, moi, personnellement, ce que j'en pense, c'est que d'une part, ça doit être le même tarif pour tous, pas le financement, mais le même tarif pour tous, et qu'en plus, quand on commence dans ce jeu-là, on divise tout le monde. Parce que c'est la question à l'heure actuelle, on dit faire payer les riches. Le problème, alors, tout le monde dit Bettencourt, etc., les grandes vedettes du showbiz, tout ça, etc., oui, d'accord. Mais lorsqu'on arrive dans le concret à l'heure actuelle, dans la réforme des retraites qui a été votée par Hollande en fin décembre, la notion de retraité riche, elle commençait à 780 euros, parce qu'on est là dans le concret. C'est-à-dire que ceux qui avaient 780 euros, ils étaient revalorisés le 1er avril, et tous les autres étaient considérés couche moyenne et riche, et donc pas c'était reparti à l'octobre. Et le riche, c'est souvent celui qui a 100 euros de plus que vous. Donc en plus, on divise le monde.
On commence le riche.
Qu'est-ce qu'on appelle
c'est une
le
bonne
riche.
Question, effectivement.
Oui, puis il y a un autre aspect, c'est que quand on fait payer de manière différenciée, on dit c'est gratuit pour celui qui justifie le fait qu'il n'a pas assez d'argent pour être gratuit. C'est donc pas une gratuité d'émancipation, c'est une gratuité de don aux miséreux. Bon. Et alors, pour que la gratuité ce soit un processus qui libère les gens, il faut jamais rentrer dans ce jeu-là. D'autant que pour prendre les transports par exemple, il faut maintenir des systèmes de contrôle. Il faut parce que les systèmes de contrôle ils ont un coût. Ça veut dire des contrôleurs. Ça veut dire toutes sortes de choses. Hein. Bon, quand la gratuité était mise en place sur les transports en commun, il y avait des craintes sur la dégradation, que les gens se foutent des transports, se foutent de ce qui se passe dans les bus parce qu'ils les payent plus. C'est pas du tout ce qui se produit. Statistiquement, toutes les études qui ont été faites montrent que il y a pas d'évolution notable des actes de malveillance. Il y en a toujours malheureusement, mais il y a pas d'évolution qualitative quoi. Donc
D'accord. Bah écoutez, on va peut-être faire une petite pause de nouveau. On vous propose le point sur Delila, de nouveau un service public qui a disparu, celui-ci, évidemment. Les frères Jacques.
Je suis le poinçonneur Delila, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Il y a pas de soleil sous la terre.
Et on mettra dans un grand trou et j'entendrai plus parler de trou, plus jamais de trou, de petit trou, de petit trou, de petit trou.
Eh bien, nous continuons donc cette émission animée aujourd'hui par la Fondation Copernic avec comme invité Jean-Claude Chaillet, animateur de la convergence.
Un des animateurs,
de la convergence des services collectifs défense et développement des services publics, et Patrick Lemoyle, qui est membre de la Fondation Copernic lui-même et qui est un des co-rédacteurs d'une note à paraître bientôt. D'ailleurs, est-ce que cette note,
fin de l'année.
Fin de l'année 2014, on aura donc une note sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est celui des services publics et plus particulièrement de leur gratuité. Alors on vient de voir que finalement cette notion même de de gratuité des services publics, elle a du sens. Elle a du sens pour justement redonner corps à cette notion de service public, pour redonner sens à cette notion de service public. Alors peut-être maintenant essayer, dans les quelques minutes qui nous restent, de voir quels sont un petit peu les exemples qui existent. On a déjà évoqué celui de d'Aubagne. Est-ce qu'on peut revenir dessus pour expliquer un petit peu comment ça se passe concrètement et quels sont les... Comment ça s'est passé concrètement ?
Concrètement, au départ, c'était dans le programme municipal de la mairie qui a été élu. Bon, mais ce qui...
Donc ça portait sur les transports.
Absolument. Les transports en commun, les bus. Hein, puisque c'est une communauté d'agglomération autour d'Aubagne. Bon, le pays d'Aubagne. Et ce qui s'est passé à Aubagne, c'est que ils n'ont pas commencé seulement à mettre en place la gratuité. Ils ont commencé à réfléchir à ce que le système de transport réponde effectivement aux besoins de la population. Et que ce soit pas seulement gratuit, mais que le transport devienne un moyen naturel pour fonctionner.
Un bien commun.
Un bien commun à tous les heures, à toutes les... Bon. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, bon, je le disais tout à l'heure, le nombre de voyages a triplé. C'est pas le nombre de gens, mais le nombre de voyages.
De voyages, oui.
Mais il y a des gens qui étaient à pied ou qui utilisaient des vélos, qui utilisaient les transports en commun, mais il y a aussi beaucoup de gens qui utilisaient la voiture. Et l'utilisation des transports en commun, elle s'est étendue. C'est plus seulement des gens qui font les voyages domicile-travail, mais c'est aussi des gens qui vont pour la vie familiale,
loisirs,
enfin toutes sortes de choses. C'est-à-dire que le mode de vie de la population a changé avec ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le travail n'a pas été fait que sur la gratuité. Il a été fait sur comment les transports peuvent être efficaces pour la population.
Et on l'expliquait tout à l'heure hors antenne, mais il y a une dimension finalement, de ce point de vue, une dimension écologique alors dans cette affaire.
Alors, pour être franc, Aubagne, pas tellement.
Pas tellement.
Mais ce qu'ils disent, eux, c'est pas un jugement de ma part, c'est ce qu'ils disent, eux. Bon, mais...
Il y a une retombée écologique, en tout cas.
Il y a une retombée écologique
colossale. Il n'y a pas une volonté,
colossale.
Forcément.
Bon, là, on est vraiment sur les questions de transport, sur une question de santé publique centrale. Bon, là, on est en région parisienne. J'invite tous les auditeurs à aller regarder l'étude qu'a fait Air Paris sur le niveau de pollution en particules fines sur la région parisienne. C'est absolument saisissant, hein. Bon, parce qu'il y a une étude qui est faite sur le niveau global de pollution plus le niveau sur les grands axes de circulation. Bon, et la pollution liée à la circulation automobile coûte des centaines de vies par an, enfin des morts prématurées, parce que malheureusement, bon, des morts prématurées, elles provoquent une diminution moyenne de la durée de vie de tous les habitants de la région parisienne. Donc, quand on discute de la gratuité, de cette gratuité construite dont je parlais tout à l'heure, bon, quand on discute d'une gratuité construite, on discute de l'ensemble des enjeux. Bon, par exemple, une voiture qui circule, toutes les études européennes ont montré qu'une voiture qui circule coûte à la collectivité 1 600 € par an. En pollution, en dégradation des bâtiments, enfin, etc. Bon. Quand on ajoute à ça le coût pour la santé, il y a une vraie discussion.
Sur effectivement le coût social global.
Le coût social global, il y a une vraie discussion. Et la gratuité, elle permet non seulement d'améliorer la vie des gens, du point de vue concret, d'améliorer leur santé. Et là, c'est vraiment, on redonne du sens au débat politique.
Jean-Claude ?
Oui, je voulais dire un mot sur Aubagne. Bon, par exemple, Aubagne, c'était Veolia qui gère l'eau, donc multinationale. Donc on peut dire à Veolia, bien sûr, on les connaît, ils ont dit, il est hors de question qu'on perde de l'argent. Donc il a fallu leur garantir. Alors effectivement, comme il y a eu plus de transports, ils ont pu s'y retrouver. Pour autant, c'est pas la population qui a payé, dans la mesure où on a été capable, et c'était le cas aussi à Châteauroux, on a été capable d'augmenter la contribution des entreprises. La taxe versement transport des entreprises. Donc, auquel cas, financement d'entreprise. Moi, je suis pour la remunicipalisation de l'eau, mais enfin bon. Mais enfin, en tout cas, pour la population, ça a été un avantage. Donc, dans ce cas-là, bon, très bien. Pareil, mais si je prenais un autre exemple, mettons, là, il fait nuit, il y a de la lumière. Il y a la question de l'énergie. tout le monde a le droit aussi, il y a une précarité énergétique pour beaucoup de gens. Donc si on disait, par exemple, je veux la gratuité de l'énergie, donc là on est dans une autre dimension, on sent bien, hein. Comment on la réaliserait? Est-ce qu'on va donner les fonds aux grandes multinationales qui la gèrent? Comment on fait financer sans que finalement, d'une façon ou d'une autre, ça soit l'argent public qui enrichisse les multinationales?
C'est tout le problème.
Là, on a un vrai problème quand on passe à cette dimension.
Dès qu'on passe à des dimensions sur l'énergie, ça nécessite la nationalisation de tous les secteurs.
Donc, je vais dire.
Oui, parce que là, le débat qu'on a
dans un changement de société à un certain point.
La question qu'on pose, là, c'est en gros, est-ce que ces services publics gratuits, ils sont finalement en régie ou pas?
Mais je pense qu'à un certain niveau, la régie, ils n'ont pas pu faire autrement à Aubagne, mais c'est quand même, au bout du compte, ils garantissaient des profits à Veolia.
C'est
quand même le paradoxe. Ils ne pouvaient pas faire autrement compte tenu de la façon dont le contrat avait été signé. Hein. Mais sur le fond de ce que tu dis là, sur la gratuité par exemple, moi je ne suis pas pour la gratuité totale de l'énergie. Je ne suis pas pour la gratuité totale de tous les transports par exemple. Je ne suis pas pour que les avions soient gratuits. Je ne suis pas pour que tout le monde... Je suis pour que... Et c'est là la discussion... C'est là que la discussion démocratique elle prend tout son intérêt. Parce que autant on peut dire dans une ville, il n'y a aucune raison que les habitants, parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas la liberté de circuler, autant il n'y a rien qui justifie que tout le monde puisse se balader aux quatre coins de l'Europe gratuitement, compte tenu des problèmes globaux d'équilibre écologique de la planète. Donc là, on rentre, dès lors qu'on rentre dans la question de la gratuité, on rentre dans ce qui est vital, ce qui est possible, je ne parle même pas financièrement, parce qu'après, tout est une question de choix, mais ce qui est possible du point de vue du fonctionnement de la société.
Global de la société. Très bien. Bien, j'ai peur malheureusement qu'on ait un petit peu de mal à poursuivre ce débat, à moins que Jean-Claude ait quelques mots à nous dire avant qu'on se quitte.
Juste deux phrases. La première, c'est qu'effectivement, la question des services publics rejoint celle de la définition démocratique des besoins. Et ça, c'est très, très important. Et d'autre part, simplement pour donner la perspective, donc on travaille avec plein d'organisations à l'heure actuelle, donc à faire des assises à l'automne de refondation du service public dans laquelle l'ensemble de ces dimensions seraient prises en compte.
Donc là, tu nous annonces une manifestation prochaine.
Ce n'est pas une manifestation, c'est un processus.
Processus. Tout à fait. Bien, mais écoutez, on va se quitter. Malheureusement, je crois qu'on aurait encore eu pas mal de choses à se dire sur cette question. En tous les cas, merci d'être venu, Patrick. Merci Jean-Claude. Merci. On va se quitter avec une petite chanson Goodbye de Dizzy Gillespie. Et puis sachez simplement que vous retrouverez de nouveau la Fondation Copernic le mois prochain, toujours le quatrième vendredi du mois, donc en juin cette fois-ci. Et là, l'émission portera sur le sport comme business. Voilà, merci et à bientôt donc.